Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous allons étudier dans un premier temps la Trinité, c'est-à-dire donc un Dieu en trois personnes, mais un seul Dieu, puisque nous allons ensuite essayer de voir ensemble la divinité de ces trois personnes. J'aimerais commencer par dire que c'est vrai que le mot Trinité ou Triunité ne se trouve pas dans la Bible, mais la Triunité y est malgré tout présente. Si on veut faire un petit peu d'histoire, c'est Tertullien au deuxième siècle après Jésus-Christ qui, lui, le premier, va utiliser ce mot, ce terme. En fait, trois éléments sont indispensables pour démontrer que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont ensemble et représentent une même identité. Il y a trois éléments. Le premier, c'est qu'il faut prouver la divinité de Dieu. Le deuxième, il faut prouver la divinité de Jésus-Christ. Et troisièmement, il faut prouver la divinité du Saint-Esprit. Et si la Bible prouve que, effectivement, ces trois personnes sont bien divines, alors elles sont de même source, elles sont de même origine. Le dogme, c'est vrai, de la Trinité a suscité beaucoup de controverses. Et c'est vrai qu'il nous faut reconnaître que le mystère de la personne divine nous dépassera de toute manière toujours, car qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, seul sonde les profondeurs de Dieu, mais nous avons une connaissance qui est bien limitée. Néanmoins, la Bible nous parle d'un certain nombre de choses qu'il nous faut ouvrir. On peut prendre un autre exemple à propos de notre être, de notre corps. Qu'est-ce que Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23? Il mentionne quoi? Il mentionne que nous sommes faits avec l'esprit, l'âme et le corps. Qui pourrait dire exactement comment ils sont unis? Qui pourrait dire exactement où commence l'un et où finit l'autre? Ça nous semble assez difficile. Mais ce n'est pas pour cela que finalement cela nous divise. Mais au contraire, ça enrichit notre personnalité, même si nous ne comprenons pas tout. Mais d'être un corps, une âme et un esprit, nous sommes enrichis par cela. Il faut donc admettre, je crois tout simplement, que la Bible l'enseigne, cette présence de Dieu en trois personnes, de manière très claire. Et nous allons essayer de développer ça pendant quelques instants, simplement avec des exemples. Nous croyons en un Dieu, en trois personnes bien distinctes. Mais effectivement, il n'y a pas trois dieux. Mais c'est Dieu au pluriel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Par exemple, la création de l'homme. Dans Genèse 1:26, nous venons de le lire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Où Dieu se vouvoie, ce qui serait assez invraisemblable, ou il parle au pluriel, parce qu'il est un, justement, en trois personnes. S'il parlait de lui, il aurait dit, Dieu dit, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Mais il n'aurait pas dit, faisons l'homme. Si nous détaillons ce verset, nous avons Dieu dit, c'est un singulier, d'abord parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc c'est Dieu dit, Dieu parle. Faisons, c'est au pluriel, l'homme à notre image, parce que justement, même là, ils sont déjà plusieurs, et nous avons ici également notre ressemblance. On va développer un petit peu tout cela. Exemple 2, on a la comparaison de l'homme après le péché. Dans Genèse 3 au chapitre 22, il est dit ceci, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Attends, encore, c'est assez étonnant. L'Éternel Dieu dit, c'est singulier, et puis nous avons, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ils sont plusieurs. Dans la traduction hébraïque, c'est le mot Elohim qui est employé dans ces différents textes, et particulièrement dans ceux de la création. car c'est Dieu au pluriel, qui ne se traduit pas par les dieux avec un X, ce qui serait quelque part logique, mais s'écrit le Dieu avec un X. Le Dieu, Dieu au pluriel. Le, c'est le singulier, car il n'y a qu'un seul Dieu, et tout le récit biblique nous parle d'un Dieu, il nous parle de l'Éternel, il nous parle du Seigneur, mais jamais au pluriel. Par contre, Dieu, lui, c'est le pluriel, parce que justement, ils sont trois en un. Troisième exemple, Paul, lorsqu'il va... La parole qui va être adressée à Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 6 et au verset 8, nous avons un autre texte. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Là encore, nous avons la voix du Seigneur, c'est au singulier parce que c'est Dieu, disant, qui enverrai-je? C'est toujours le singulier, c'est Dieu. Et qui marchera pour nous? Pourquoi mettre ce pluriel nous ici? Tout simplement parce que justement, à travers les autres textes que nous avons vus, il est en train de révéler la Trinité. Il est en train de révéler un Dieu unique, simple, seul, mais avec trois personnes. Et Ésaïe ne se trompe pas quand il va répondre à Dieu. Il répond bien à Dieu au singulier. Vous connaissez la réponse. Envoie-moi. Il s'adresse bien à la bonne personne. Il ne dit pas « envoyez-moi », il dit bien « envoie-moi ». Il s'adresse au Dieu unique. Dernier exemple pour cela, la tour de Babel. Vous vous rappelez de cette histoire? Là où il y a eu le partage des langues, Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit « voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Même phénomène. L'Éternel Dieu dit, c'est du singulier, et au verset 7, il dit maintenant, allons, descendons, et confondons leur langage. Ce ne sont pas des erreurs de traduction, ce ne sont pas des erreurs de conjugaison, c'est la réalité du texte hébraïque qui nous présente donc ce Dieu en trois personnes. Et du début de la Genèse jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, nous allons voir ensemble que ce Dieu en trois personnes existe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'il y a eu intervention, manifestation de Dieu, événement spirituel dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un peuple, d'un pays ou autre, eh bien nous voyons toujours que Dieu s'est manifesté, mais les trois se sont manifestés, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Troisièmement, la présence justement des trois personnes de la Trinité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Première partie, tout en révélant sans cesse le Dieu unique, l'Ancien Testament fait pressentir la pluralité de ce Dieu, justement, en trois personnes. Et dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, le premier texte que vous avez dans votre Bible, il est dit, vous connaissez cela, « Au commencement, Dieu créa. » Et quand vous prenez le texte en hébreu, il est dit « Au commencement, Dieu, pluriel, Elohim, créèrent les cieux et la terre. » Il n'est pas tout seul, dès le commencement. Et au verset 2, il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et au verset 3, il est dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Nous avons quoi ici? Nous avons les trois personnes de la Trinité qui sont présentes dans la création. La première, on l'a au verset 1. Nous avons Dieu. Dieu créa ou créèrent. Dieu le Père est là. Au verset 2, nous avons l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit était déjà là. Au verset 3, nous l'avons vu aussi tout à l'heure, il y a Dieu dit que la parole soit et la lumière fut. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'apparition de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. La Bible nous dit, il est la parole faite chair. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, etc. Et nous avons contemplé sa gloire, de gloire en gloire, Fils unique, etc., etc. Au commencement était la parole. Verset 14, et la parole a été faite chair. La parole qui a été proclamée lors de la création de la Genèse, c'est Christ qui s'est manifesté. Et nous avons là les trois personnes de la Trinité. Au chapitre 1er de Colossiens, verset 16, encore une fois, il est dit, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé, écoutez bien, par lui et pour lui. Alors, ça suscite une question, on se dit, mais si Jésus est né il y a 2000 ans, comment pouvait-il être là à la création? Et c'est ce que Jésus va répondre à ses accusateurs et ses hommes religieux de l'époque qui, malgré leur religion, n'avaient pas compris grand-chose. Il va leur dire, mais avant qu'Abraham fût, moi je suis. J'étais là. J'étais présent. Et pour eux, dans leur conception, c'était difficile ça. Parce que Abraham, c'était le père. C'était lui qui avait engendré ces hommes, ces femmes. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, se présente et dit, mais moi j'étais là avant. Alors là, ils comprennent plus rien, parce que Jésus, ils veulent le tuer. Parce qu'il gêne beaucoup, il dérange. Mais ils disent, mais comment cela se fait-il? Tu étais là avant. Et Colossiens, et nous avons la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 5 également, qui confirme cela, où il est dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. La parole était active. La parole était en action. Et nous savons que la parole, c'est donc, comme je l'ai dit dans Jean, chapitre 1, verset 1er, c'est la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, le Nouveau Testament présente aussi constamment les trois personnes divines unies à l'œuvre du salut, comme elles l'ont été dans la création. Et nous allons voir plusieurs exemples. Le premier exemple, eh bien la nouvelle naissance est possible par quoi? Eh bien par une régénération du Saint-Esprit dans notre vie, à cause de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et le don de Jésus-Christ, son Fils, sur la croix, pour chacun de nous. Et c'est ça qui va nous sauver de la religiosité, qui va nous sauver de notre monde de ténèbres et va nous amener jusque dans la vie éternelle. C'est, je dirais, cette harmonisation de ces trois principes, régénération du Saint-Esprit, l'amour de Dieu et le don du Fils, qui va nous amener dans une vie libéré et sauvé. Jean nous dit, chapitre 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez ce texte? C'est Jésus qui s'adresse à Nicodème, et cet homme de la loi, ce docteur de la loi, cet enseignant, cet homme qui avait de grandes responsabilités, lui a dit, mais tu annonces des choses formidables, tu annonces des choses merveilleuses, tu es en train de parler de choses très profondes, mais malgré toute ma connaissance, je n'arrive pas à les comprendre. Comment je peux être sauvé? Et Jésus lui dit, mais celui qui ne naît d'eau et d'esprit, eh bien, il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Et eux, ils pensaient que parce qu'ils allaient faire toutes sortes de bonnes œuvres, qu'ils allaient donner leur dîme, qu'ils allaient donner de l'argent, qu'ils allaient faire toutes sortes de concessions, cela, forcément, ça allait leur donner une place auprès de Dieu. Et Jésus, il remet un petit peu les pendules à l'heure et les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Et il dit, mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Et Nicodème va lui dire, mais je peux pas devenir une nouvelle créature. Je ne peux pas, dans mon âge avancé, entrer de nouveau dans le sein de ma mère et en ressortir. Je ne peux pas devenir une nouvelle créature. Et Jésus lui explique, mais c'est pas comme ça. C'est pas une action de la chair, c'est une action de l'esprit. Et le Saint-Esprit va nous amener à ressusciter, à naître, à renaître une deuxième fois. Nous sommes nés une première fois de la chair, nous avons besoin de naître une seconde fois de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que cela nous concerne tous, parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire dans notre vie. Nous ne pouvons pas être épanouis si nous n'avons pas permis à l'Esprit Saint de nous faire renaître. Et parfois, même au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui depuis des années sont là, mais ils ne sont pas nés une deuxième fois. Quel est le résultat de cela? Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous, on a toutes les conceptions humaines en disant, mais il fait ceci, il fait cela, il est très sympathique, il ou elle est gentil. Mais ça, le Seigneur, il s'en moque complètement. Nous sommes nés une première fois de la chair, nous devons naître maintenant de l'Esprit. Ça veut dire qu'il nous faut laisser le Saint-Esprit venir dans notre cœur, dans notre vie, nous amener à prendre et à obtenir une révélation pleine et entière de ce qu'est et de ce qui est la personne véritable de Jésus-Christ, et de nous approcher de lui et lui dire maintenant, oui, viens, viens me faire renaître, viens changer ma vie, viens m'amener dans une vie nouvelle. Paul va ensuite, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, confirmer cela en disant maintenant, vous êtes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. C'est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre surnaturelle qui est valable encore aujourd'hui. Et je fais juste une parenthèse pour dire que si au milieu de nous, quelqu'un qui est là depuis quelques temps, quelques semaines, peut-être quelques années, et qui n'est pas vraiment né de nouveau, tu as besoin de faire cette expérience avec Jésus. Parce que même si tu as été baptisé, même si tu prends la Sainte-Seine, même si tu donnes ta dîme, même si tu viens à quelques réunions, c'est pas ça qui sauve. Tu as besoin de naître de nouveau. Et c'est pour ça que tu luttes avec tes problèmes, avec tes envies, avec tes mauvaises pensées, avec ton mauvais caractère, avec toutes sortes de choses. C'est pour ça que tu luttes, parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de naître une seconde fois, et pas de la chair, de l'esprit. Et quand tu nais de l'esprit, alors tout change. Parce que Paul le confirme, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Et certains ont cru que le fait de passer par les eaux du baptême, c'est ça qui allait accomplir le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Les choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais le baptême, ça ne fait rien du tout, parce que ça n'a pas du tout cet objectif-là. Le baptême, c'est une obéissance à Dieu, et c'est l'engagement dans une bonne conscience à suivre et à marcher Dieu, avec Dieu. C'est ça l'objectif du baptême. C'est un contrat que nous signons avec lui, en disant, je m'engage. Je sais que je serai encore un pécheur, je sais que je vais tomber, je sais que ça ne sera pas toujours évident, mais je vais marcher avec toi, je m'engage à être avec toi jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je tombe, je m'engage à te permettre de me relever. C'est ça l'engagement dans le baptême. Et aller jusqu'au bout. On a cru que le baptême aussi, à un moment donné, c'était ce qui allait nous préserver de tout fléau, de toute difficulté, de tout problème et de tout péché. Mais c'est une erreur doctrinale. Ce n'est pas du tout l'objectif du baptême. Le baptême n'a pas de cet objectif-là. Et si certains pensent vouloir s'engager dans les eaux du baptême pour justement croire que c'est ça qui va les changer, c'est une grossière erreur. Le changement, il se fait avant. Par une action de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous change. Et quand on est d'accord sur les bases du contrat spirituel, alors on se fait baptiser, on signe un contrat avec Dieu en disant « Je m'engage avec toi ». Il y a des clauses où je vais pouvoir chuter, c'est vrai, il y a des clauses où ta grâce et ta miséricorde sera encore là, et je les accepte. Je marche avec toi. Tu ne vas pas faire de moi quelque chose et quelqu'un de parfait, puisque je serai parfait lorsque je serai avec toi dans le ciel. Pour l'éternité. Il n'y aura plus tout ça dans l'éternité. Après, il y aura des haut-parleurs super efficaces pour qu'on s'entende tous bien comme il faut. Ça sera super, super. Mais là, on n'est pas encore dans l'éternité. Alors bon, la technique, c'est la technique. Hein. Deuxième exemple. Les trois personnes viennent faire leur demeure dans le cœur de chacun de ceux et celles qui désirent les accepter. Souvent on dit que le Saint-Esprit est en nous, Jésus est en nous, mais les trois personnes sont en nous. Ok, on va lire un verset, hein, parce que... Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et écoutez bien, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Père et le Fils ne font qu'un. J'ai pas mis le verset ici, mais 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, nous dit que Dieu était en Christ. Et dans les évangiles, il nous est dit que Dieu et Christ ne sont qu'un. Nous viendrons, dit-il, et nous ferons notre demeure chez lui. Colossiens 1, 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et un autre verset que nous allons prendre, parce que ça c'est un verset qui a été modifié par les témoins de Jéhovah, et ils ont traduit ce verset en disant « Jésus-Christ est en union avec nous ». Parce qu'ils ne peuvent pas considérer que Jésus soit en nous, ou en eux, par leur conversion, ou le fait d'accepter Christ. Parce que justement, ça remet tout en cause dans leur base doctrinale. Donc eux ont traduit ça par « en union ». Mais il n'est pas en union, il est en nous. Jean 14, 17 nous dit « L'Esprit de vérité demeure avec vous, et il sera, pour que ce soit bien clair, en vous. » Il sera en vous. Je ne peux pas dire et pas lire autre chose que ce que la Bible ici m'enseigne. Donc nous voyons par trois versets que Dieu est en nous, que Christ est en nous, et que le Saint-Esprit demeure avec nous et en nous. Alléluia. Et vous connaissez cet autre verset qui nous dit « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Donc il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais il y a aussi Christ, et il y a aussi Dieu qui est en nous. Troisième exemple de la présence donc des trois personnes de la Trinité, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament ici. La bénédiction évangélique est donnée justement en leurs trois noms. On va prendre le verset. 2 Corinthiens 13:13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On a encore là la présence des trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Exemple 4. Les trois personnes sont manifestées également. À quel moment? Lors du baptême de Jésus. Nous avons la manifestation des trois personnes lorsque Jésus entre dans les eaux du baptême. Matthieu chapitre 3 verset 13 nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons ici Jésus. Nous avons l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté sous la forme d'une colombe, mais la colombe n'est pas l'esprit, d'accord? L'esprit c'est bien autre chose, et ça, on développera ça ensemble mardi soir, on verra ce qu'est véritablement le Saint-Esprit, on verra quelle est la nature du Saint-Esprit, quelle est la puissance du Saint-Esprit, on verra qu'on peut parler, qu'on peut entendre le Saint-Esprit, qu'il peut voir, etc., etc., qu'il est véritablement une personne, on verra ça mardi soir. Suite à cela, Christ ordonne à ses disciples qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, c'est ce que nous faisons lorsque nous faisons des baptêmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier, je précise. Ils sont trois, mais c'est au nom, pas dans les noms, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, la parole de Dieu est intéressante, on peut s'arrêter même sur certains détails qui au départ ne nous vont pas forcément nous interpeller, nous marquer, mais qui dans, finalement, la doctrine, la base biblique, sont très importants. Le Fils est devenu tout simplement le Fils de l'homme qui a obéi. Le Saint-Esprit est celui qui descend comme une colombe et le Père parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, etc., etc. Les trois personnes sont au baptême de Jésus. Exemple simple, 5, pardon, dans la vie de l'Esprit, ils ont chacun aussi leur action. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 4, il nous est dit qu'il y a diversité de dons, pardon, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout, en tout, etc. Et c'est ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude de l'esprit. On a le Père, on a le Fils, et on a le Saint-Esprit. On pourrait s'arrêter bien plus longtemps sur ce texte-là et le développer, mais on fera peut-être une prochaine fois. J'aimerais aller plus loin. Ça, c'est la plénitude divine. C'est la plénitude divine parce que c'est l'entente parfaite entre les trois qui forment Dieu, un. Ils sont parfaitement dans cette communion et dans cette entente. Ils sont plusieurs, donc, et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Éphésiens 4:4 nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Alléluia. Un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Amen. Quatrièmement, on va s'arrêter quelques instants sur les qualités et les actions immanentes, je dirais liées aux trois personnes de la divinité. C'est pas trop compliqué? Ça vous saoule pas? Non, ça va, on continue un peu. Vous avez les cassettes après pour... Exemple 1. Les titres divins, le titre divin est appliqué aux trois personnes de la Trinité. L'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Il se titre lui-même. L'Éternel, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dans Jean chapitre 20 au verset 28, Thomas va répondre ceci à Jésus, rappelez-vous. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Quand il n'a pas cru que Jésus était ressuscité et que Jésus lui dit, mais mets ton doigt dans mes mains, mets ta main dans mon côté qui est percé. C'est bien moi, c'est pas un ange, c'est pas un esprit, c'est moi qui suis là. Et alors à ce moment-là, Thomas, l'incrédule, va dire, mais oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Donc il appelle Dieu, Jésus. Je crois que si la chose n'avait pas été, si Jésus n'était pas Dieu, certainement il aurait repris Thomas et il lui aurait dit, mais non, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Parce que Jésus était juste. Mais Jésus ne reprend personne. Il laisse parler cet apôtre de cette manière-là, parce que c'est le cas. Jésus est Dieu également. Et dans Actes au chapitre 5 et au verset 3, ça c'est assez intéressant, ça nous parle du Saint-Esprit. Vous connaissez ce moment où, à cause du mensonge et de la tromperie, eh bien Dieu va agir sur Ananias et Saphira. Il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ben, écoutez bien, là il est question du Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment, écoutez bien, as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et ici, il y a une association au départ. Il ment au Saint-Esprit et après il ment à Dieu. On se rend compte que le Saint-Esprit a la même valeur. Il y a un amalgame entre la personne du Saint-Esprit et la personne de Dieu. Deuxième exemple, les personnes ont ressuscité, les trois personnes ont ressuscité Christ après la mort de Christ. 1 Corinthiens 6, 14. Il est dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Là c'est Dieu. Mais Jean 2, 19 nous dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Jésus annonce comme celui qui se relèvera trois jours après la mort. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et écoutez bien, et rendu vivant quant à l'esprit. Et il en a le Saint-Esprit qui intervient dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'affirmation que sa chair était morte, mais que l'Esprit l'a vivifiée. Troisième exemple, les personnes ont inspiré aussi les prophètes. Hébreux 1.1 nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. 2 Corinthiens 13.3, Paul dit, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre écart, mais qui est puissant parmi vous. Là maintenant, c'est Christ qui parle. Et puis nous avons également Marc 13.11, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, etc., etc. Il est dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Les trois parlent. Et les trois s'adressent à des hommes et à des femmes. Dernier exemple, et je conclue, les trois personnes assistent également. Les ministères, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, etc. Nous avons Dieu qui nous assiste directement. Il est dit dans Jérémie, chapitre 3, verset 15, l'Éternel dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Il dit également, écoutez, dit l'Éternel, les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Donc Dieu est celui qui va assister les ministères. Mais Jésus est celui qui assiste les ministères également. Dans Éphésiens, chapitre 4 et au verset 11, « Et il, Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, etc. etc. » Matthieu 10, 5 confirme également cela. « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas chez les païens, etc. etc. » Donc là, nous avons le Père, nous avons Jésus, et maintenant, nous avons le Saint-Esprit également qui assiste les ministères, qui assiste les serviteurs. Acte 20, 28 nous dit « Prenez donc garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vous voyez, il y a un amalgame ici. Il est question « Le Saint-Esprit vous a établi. » Et ensuite, il est dit « Qu'il s'est acquise par son propre sang. » Alors, on pourrait dire « Mais le Saint-Esprit a du sang. » Le Saint-Esprit n'a pas de sang. Mais c'est là, justement, la profondeur de cette triunité où le Saint-Esprit intervient, mais Jésus est là présent également. Les trois sont là. Le Saint-Esprit n'a pas de sens, c'est une identification avec Jésus-Christ, pour bien nous faire comprendre qu'ils sont un. Et acte 13 au verset 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Paul, vous connaissez également ce texte, et là nous avons le Saint-Esprit qui parle. Et il assiste aussi là, ces ministères. Nous voyons donc simplement ici que de manière très claire, les trois personnes de la Trinité sont constamment partout, présentes et actives. Les trois. Il n'y en a pas forcément une plus que l'autre, mais les trois sont là. Alors ma conclusion, elle va être simple. Les trois personnes sont unies. Elles sont unies de telle manière qu'elles vont manifester la plénitude du seul Dieu qui est vivant. Elles accomplissent les mêmes œuvres et reçoivent les mêmes adorations. Nous pouvons dire que ces trois personnes sont décrites dans tous les textes que nous avons vus ce matin comme éternelles, saintes, véritables, omniprésentes, omnipotentes, omnisciences, créatrices, enseignantes, sanctificatrices, actrices de toutes les actions spirituelles, source de la vie éternelle, etc., etc. Elles ont toutes ces qualités-là, ces attributs-là. Et il y a, entre les trois personnes divines, quoi donc ? Eh bien, une unité qui est totale, un amour qui est infini, un ordre de soumission qui est parfait entre Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, et il y a aussi une harmonie qui est incomparable, de laquelle nous devons nous inspirer certainement. Alors, pour terminer, je dirais que le monothéisme, c'est la croyance en un Dieu unique de l'Ancien Testament, n'est bien sûr pas compromis dans cette pensée-là. Pourquoi ? On pourrait se dire, mais là, il y a donc plusieurs dieux. Non, non, je rappelle qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes différentes. Et dans l'Ancien Testament, nous avions avant tout la révélation du Créateur, du Père souverain, Dieu pour nous. C'est ça la révélation de l'Ancien Testament dans un premier temps. Dans les évangiles, le Seigneur, la Bible nous dit, s'est approché au point d'être Dieu avec nous. Emmanuel, définition du mot, Dieu avec nous. Et à la Pentecôte, il est devenu quoi ? Il est devenu Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Alors nous verrons, la prochaine fois, cet après-midi, nous verrons la hiérarchie qu'il y a entre ces trois personnes. Et puis nous allons nous arrêter quelques instants sur la divinité de Jésus-Christ. Et c'est un point qui est très important, parce que la divinité de Jésus-Christ, comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui elle est contestée. Elle est contestée même dans le milieu protestant. On pense que Christ finalement n'était pas un être divin, qu'il était simplement une personne qui est venue comme ça, et même certains doutent vraiment de son existence. Alors nous allons voir ensemble que ces théories-là sont fausses et que ce que la Bible affirme a raison. Moi, pas moi, ni l'Église, mais ce que la Bible affirme est vrai. Et cet après-midi, on verra donc la divinité de Jésus-Christ. Et mardi soir, on verra la divinité du Saint-Esprit. et on verra tous les attributs qui sont associés à l'action du Saint-Esprit. On prie ensemble ?